Chapitre 36. Ça bouge beaucoup quand même. Je ne suis pas sûre que ce soit très sécurisé. Assise dans la pirogue, Anne ne parvient pas à se détendre. Camille se marre. T'inquiète, j'ai pris des bonbons. Si on se renverse, je détournerai les crocodiles. Ça ne me fait pas rire du tout. Camille, arrête de te moquer, intervient Marie. Tu sais bien que les crocodiles ne mangent pas de bonbons. Moi, j'ai pris ma carte bancaire. Je suis sûre qu'ils sont corruptibles. C'est ça, moquez-vous. Si on tombe, vous ferez moins les malignes. Autour d'elle, la forêt tropicale fait une haie d'honneur à la rivière Navoa. À l'arrière, un autochtone en habit végétal guide la pirogue. Les trois femmes étaient encore un peu malades lors de leur arrivée à Suva. Mais elles ne voulaient manquer cette excursion sous aucun prétexte. Elles s'en félicitent. De temps à autre, des falaises prennent le relais des arbres, laissant jaillir une cascade et des oiseaux colorés. Le dépaysement est total. L'arrivée au village fidjien se fait au son des chants traditionnels. L'accueil est chaleureux et organisé. Les habitants, vêtus de pagnes mixés à des vêtements plus modernes, sont habitués à recevoir des touristes et le font de bonne grâce. Les passagers suivent le guide pour une visite du village, avant de s'installer parmi les villageois autour d'un buffet de fruits juteux. Jusqu'ici, les excursions se limitaient à la visite de lieux. Là, ils découvrent un peuple, une culture. Ils échangent, grâce à un traducteur américain, s'observent, se touchent même. Les heures filent sans que personne ne s'en rende compte. Les enfants sont particulièrement attachants. Un garçon âgé de 2 ou 3 ans se blottit dans les bras de Marie et s'y endort. Une fillette de 10 ans est subjuguée par les bracelets de Camille. À la fin de la journée, des enfants du village leur offrent une danse traditionnelle en guise d'adieu. Voir ces petits bouts d'hommes se donner du mal pour s'inscrire dans les souvenirs de leurs visiteurs a quelque chose d'émouvant. L'un d'entre eux attrape Anne par la main pour l'inviter à danser. Elle résiste, puis au bout de quelques secondes, essaie de les imiter, provoquant l'hilarité des villageois. En partant, Camille offre un bracelet à la fillette, qui fond en larmes. Dans la pirogue, au retour, les trois femmes gardent le silence. Quand elle était petite, Anne disait qu'elle voulait 5 enfants. Ça faisait rire les grands, mais elle était très sérieuse. Une famille nombreuse, à l'inverse de la sienne, voilà ce qu'elle voulait. Des frères et sœurs qui se prêtent leurs jouets, se tirent les cheveux, partagent des secrets et des souvenirs, font des spectacles de danse pour leurs parents, s'endorment blottis les uns contre les autres devant la télé, se volent des bonbons. Elle avait choisi leur prénom et imaginé leur visage. Et puis, elle a rencontré Dominique, et elle a oublié les goûters, les doudous, les sucettes. Il lui suffisait. Leur famille était une table de 2. Elle n'a jamais regretté. Son amour des enfants, elle le comble avec ceux de ses collègues. Tata Anne les gâte à chaque Noël et chaque anniversaire. Ils le lui rendent bien. Son frigo est recouvert de dessins. Camille ne veut pas d'enfants. Ces petits machins qui braillent, chient et foutent en l'air la grasse mat du dimanche, très peu pour elle. Ceux des autres, à l'extrême limite. Elle peut les tolérer quelques minutes. Mais en avoir un à soi, pour toute la vie en plus, non merci. Elle a du mal à garder une plante vivante, alors un bébé. Ou bien il faudrait qu'elle puisse accoucher d'un enfant déjà grand. Qu'il sache se faire à manger, s'habiller tout seul et débarrasser le lave-vaisselle. Et puis il faudrait qu'elle arrête de boire, de fumer et surtout de dire des gros mots. Elle n'est pas prête pour de tels sacrifices. Elle commence juste à jouer à la poupée, elle ne compte pas partager. Elle a tout le temps pour ça. Heureusement, il n'y a pas de papa en vue. Marie est tombée enceinte sans l'avoir prévu. Avoir des enfants, ça faisait partie de ses plans, mais pas dans l'immédiat. Elle n'était pas prête. Jusqu'à ce qu'elle les sente bouger sous sa peau. Les jumelles se tenaient la main dès la naissance. Marie a tout de suite senti cet amour dont parlent les mamans. Celui qui fait presque mal tellement il est fort. Ça ne lui est jamais passé. Lorsqu'un autre bébé a tracé 2 barres roses sur un test, elle l'a immédiatement aimé. Elle a décoré sa chambre, acheté des tas de petits body, les a lavés avec de la lessive hypoallergénique, a colorié son prénom sur la porte de sa chambre et imaginé leur rencontre. Il s'appelait Jules. Il avait sa bouche et le nez de son père. Il était beau. Mais il est mort au moment de vivre. Une part d'elle est partie avec lui. Rodolphe a dit qu'il fallait tourner la page. C'était pas comme s'il avait vraiment existé, hein. Elle a obéi, en apparence. Pas un seul jour ne passe sans qu'elle pense à son fils qui serait adolescent aujourd'hui. Le retour dans le paquebot plein de lumière et de dorures à quelque chose de décalé après cette parenthèse hors du temps. Alors que les trois femmes se dirigent vers l'ascenseur, Arnold vient à leur rencontre en fixant Marie. « Bonsoir, Madame Deschamps. Voici encore un courrier pour vous. » Marie saisit l'enveloppe qu'il lui tend. L'écriture hachée de Rodolphe s'étale sur le papier blanc, sous un timbre collé de travers. « Ça va aller ?» demande Anne. « Oui, oui, je lirai ça plus tard. » Elle range la lettre dans son sac, avec la désagréable impression que son contenu ne va pas lui plaire.